Il y a encore de la place, on n'est pas si nombreux que ça. On va démarrer rapidement, histoire de ne pas finir trop vite ce soir, ou trop tard surtout. Bon, on y va, il est 9h moins le quart, on a déjà un petit peu de retard, comme d'habitude. Un petit quart d'heure, c'est pas trop mal. On a vu pire. Voilà, la soirée de ce soir est à l'initiative d'un collectif unitaire. Je le rappelle, sans citer tout le monde, c'est juste histoire de dire qu'effectivement, c'est le fruit d'un travail d'association, de syndicat et de parti, que c'est une partie de notre engagement, et c'est pas la seule évidemment, ce meeting de ce soir. Il y a aussi les manifestations dont on aura à reparler, les manifestations à commencer par celle du 11 février. Quel lapsus! Ça commence bien! Du 11 février. Il y a celle de Nantes, à Place du Commerce à 15h. J'espère qu'il fera un peu moins froid qu'aujourd'hui. Et puis il y a surtout celle de Strasbourg, qui c'est loin. Strasbourg, Nantes, Strasbourg, c'est... Ça fait une trotte, en quart ça fait du temps, ça fait un peu de sous aussi, pourtant on essaye de mettre sur pied un trajet en quart qui coûte pas très cher, c'est 50€ l'aller-retour pour les personnes qui peuvent et 20 pour ceux qui ont des situations financières plus difficiles. Autrement dit, on est déjà déficitaire avant même que le quart soit rempli, mais on espère eh bien, qu'en partie ce soir, eh bien, on pourra réunir un peu d'argent pour faire en sorte que ce quart puisse quand même partir. Voilà. D'ailleurs, vous serez certainement sollicité par des petites boîtes, des petites caisses et des petites personnes qui vous embêteront à la sortie ou dans les couloirs, ou qui vous coinceront contre les murs. L'entrée est gratuite, la sortie n'est pas payante, mais presque. Parce que rien que le meeting, évidemment, ça coûte aussi des sous. Les gens qui sont là, ils mangent, ils boivent, ils viennent en train, enfin, vous savez ce que c'est. C'est insupportable. Voilà, donc ça c'est le collectif, c'est ce qui va se passer dans les manifestations. Et pourquoi on est là ce soir? C'est pour à cause de ce triste nom qui ressemble plutôt à une série B, qui fait un petit peu film d'épouvante. On a parlé de Frankenstein, Wolkenstein, de vampires, de directives qui disparaissaient au lever du jour. Certains ont voulu nous faire croire qu'elles étaient enterrées. Qu'elles étaient enterrées. On l'a entendu à droite et à gauche, qu'à de le dire. Et puis voilà, finalement, elle n'a pas tout à fait le même nom. Wolkenstein est bien parti, mais la directive est bien restée. Alors il y a des amendements dans l'air, il y a plein de choses. Moi je ne suis pas un spécialiste du tout de la directive Wolkenstein, les spécialistes c'est eux a priori. Enfin ils nous font... A priori c'est eux. Donc pour l'organisation de ce soir, voilà comment ça va se passer. Dès que j'ai fini de parler, en espérant n'avoir rien oublié, parce que c'est ça qui est compliqué. Les sous, les tables de presse, tout ça. Enfin on en reparlera. Si j'oublie des trucs, ils me tireront l'oreille et puis je reviendrai tout à l'heure. La première partie évidemment ce sont les intervenants. À la table, eh ben, ils sont quasiment... Ah non, ils ne sont pas dans l'ordre. J'ai cru qu'ils allaient être dans l'ordre de passage, qu'il y avait quasiment un générique. Non, ça commence par Gérard Durand, qui est tout de suite à ma gauche, qui est porte-parole nationale de la Confédération Paysanne. Gérard est un grand voyageur. Il n'est pas allé à Bamako, contrairement à ce qu'on disait à table tout à l'heure, mais à Caracas. Il revient de Caracas. Et puis il a fait la une des journaux, vous vous en souvenez peut-être, avec une histoire à Hong Kong où il a pris froid toute une nuit dans une petite geôle. Enfin bref, il a couru de grands dangers, il nous revient de la Caracas et il nous expliquera eh bien, qu'est-ce que c'est que cette globalisation, qu'est-ce que c'est que cette mondialisation et dans quoi on est en train de s'inscrire et surtout comment on peut faire contre. Ça sera la première intervention. Je vous dis tout de suite, il y a beaucoup d'interventions mais on va se débrouiller pour qu'elles soient courtes. On a demandé à chacun de ne pas prendre plus d'un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, mais je commencerai à crier au bout d'un quart d'heure. La seconde personne qui va intervenir, c'est Pierre Calfa. Pierre Calfa est syndicaliste, il est solidaire, il est aussi à Attaque Nationale, au conseil d'administration, et il interviendra, lui, plus sur l'entrée, comment ça s'articule entre Wolkenstein et la construction européenne. Ça sera un peu plus technique, peut-être. La troisième personne, ça sera un témoignage. Les témoignages, c'est plus court. ils ont moins de temps pour eux. Ce sera Gérard Guénifet qui vient de Saint-Nazaire, et il ne travaille pas au chantier, mais il est un acteur social sur le terrain. Il connaît bien ce milieu et il me parlera effectivement de la situation et comment, enfin, peut-être que sûrement beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce problème des chantiers. Il y a eu le film, évidemment, Un regard moderne, je crois que ça s'appelait. C'est ça, hein? Voilà. Et Gérard Guénifet viendra nous faire un rapide témoignage et survol de cette situation qui fait du pré-Bolkenstein, du Bolkenstein avant le Bolkenstein. Mais ce n'est pas du Bolkenstein light, hein, faut pas croire. La personne qui viendra après, eh bien, c'est Francis Wurtz, la troisième personne à ma gauche, qui est député européen du Parti communiste français et qui est président de GUE, à savoir la gauche unie européenne. Voilà. Il nous a semblé important qu'il y ait un parlementaire, quelqu'un qui représente ce Parlement dont on a tant parlé à un certain mois de mai dernier, et qui pouvait effectivement nous parler de comment ça se passe à l'intérieur de cette grande boîte à laquelle on ne comprend pas toujours grand-chose. Et puis ça sera suivi d'un autre témoignage, des gens qui connaissent aussi bien le phénomène de la précarité, à savoir les professionnels du spectacle, les intermittents. Philippe Gauthier viendra parler en leur nom et nous expliquera un petit peu comment cette précarité est déjà à l'œuvre dans certains secteurs. Voilà. Philippe Gauthier donc en témoignage. Et puis la dernière personne, c'est un journaliste. C'est le deuxième à ma gauche, je l'avais perdu de vue. C'est Michel Soudet qui travaille à Politis. Politis est un des rares journaux qui reste lisible. Je ne veux pas être méchant, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont tombés dans de drôles de choses. Et Politis, c'était ce matin, par exemple, j'ai acheté ce matin. Moi. Je ne connaissais pas Michel Soudet, mais voilà, il va nous brosser le tableau très large de cette directive et comment elle peut s'inscrire, comment elle peut vraiment être un véritable danger. À partir de là, pas mal de temps sera déjà écoulé, un quart d'heure par quatre, 5-10 minutes par deux, vous voyez. On sera aux alentours de 10h, 10h et quart, et là le débat sera ouvert évidemment. Vous aurez tout loisir pour poser vos questions, pour dire votre opinion. Et puis on fera une petite clôture, s'ils veulent reprendre un petit micro, évidemment, on les laissera faire, histoire de boucler vers 11h, 11h30 à tout casser, parce qu'après il y a le verglas, la neige et tout, enfin c'est foutu. Voilà, je les laisse parler, je commence par Gérard. Je sais pas comment vous parler, parce que là, ça fait un peu messianique. Hein ? C'est pas ton genre ? Celui-là, il marche. Ça marche très bien. Moi, j'avais pas appuyé sur l'interrupteur. Voilà, voilà. Génial. Il est aussi bête que moi.
Les techniciens, ça marche. Non, je préfère comme ça. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis que je suis revenu de Hong Kong. Depuis, c'est vrai, j'étais à Caracas, au Forum social mondial. Donc, déjà, d'entrée de jeu, c'est vrai que quand on était incarcéré à Hong Kong, ça a fait chaud au cœur de savoir que sur le terrain, il y a des gens qui se mobilisaient. Et je voulais vous remercier pour ça, parce que je n'ai pas eu l'occasion encore. Et c'est vraiment de tout cœur, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi, enfin, tout à l'heure il était dit les spécialistes sont à la table. Moi je ne suis pas vraiment un spécialiste, hein. Je suis un paysan qui croit en certaines valeurs et qui est engagé dans le syndicalisme, et c'est pour ça que je me retrouve à un poste de responsabilité à l'heure actuelle. Les spécialistes, ils sont sûrement là, mais moi je ne suis pas un spécialiste de Bolkenstein, j'essaye de défendre à travers la cause paysanne. La cause paysanne pas franco-française, la cause paysanne mondiale, avec la Via Campesina, tout ce qui est mis en cause à travers cette libéralisation et les conséquences que ça peut avoir pour l'ensemble de la paysannerie. Donc je suis paysan et syndicaliste, je ne sais jamais trop lequel qui prime sur l'autre, mais vraiment sans doute les deux à la fois. Bolkenstein, c'est pas moi qui en parlerai, mais ce qui est clair avec Bolkenstein, c'est que, ou la directive, c'est que c'est bien quelque part une volonté d'un moins-disant social qui rejoint, à mon avis et à l'avis de pas mal de gens, le moins-disant voulu au niveau de l'OMC quelque part, c'est-à-dire le moins-disant économique, le moins-disant fiscal, le moins-disant environnemental, où on va tous quelque part plonger. Si on n'arrive pas de s'opposer concrètement. Donc c'est vrai, bon, j'avais préparé un petit peu un petit papier parce que pour dire un petit peu dans le cadre dans lequel on était, c'est vrai que on est plutôt dans une société avec la charte des droits de l'homme qui reconnaît que il faut donner sa chance à tout le monde, que qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit en bonne santé ou pas, on a le droit à une certaine protection sociale, à une certaine, enfin une couverture universelle quelque part, à des droits universels. Pour faire très vite, et c'est vrai que au niveau de l'OMC, parce que moi je pense fortement, certes on est sur Bolkestein ce soir, mais Bolkestein c'est une partie de ce qui se négocie au l'OMC, et moi je ne peux pas faire ne rester que sur la problématique Bolkestein, je pense qu'il faut être sur la problématique générale, et qu'au niveau de l'OMC, eh bien, l'enjeu c'est bien quand même de remettre, on a dit souvent, mais je crois que dans les pays développés entre autres, on a perdu avec le capitalisme quelque part a perdu un certain taux de profit qu'il avait auparavant, et s'apercevant quelque part que dans ces pays développés l'ensemble des conquêtes syndicales et des conquêtes sociales avaient fini quelque part un petit peu par dompter le fonctionnement économique, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux que pour retrouver des taux de profit quelque part, de mettre en concurrence l'ensemble des économies et l'ensemble des sociétés pour s'aligner sur le moins-disant social, le moins-disant économique. Donc c'est un des grands, enfin le grand objectif de l'OMC, c'est bien ça, quoi. Mettre en concurrence l'ensemble de ce qui fait l'activité humaine pour restaurer le profit pour le capitalisme. Donc si moi la partie que je connais la mieux, bien sûr, c'est l'agriculture, donc c'est plus avec cet exemple-là que je peux vous en parler le mieux. C'est vrai que au niveau de l'agriculture, quand on parle d'agriculture, il y a trois fonctions à l'agriculture. La première, c'est nourrir. Nourrir, c'est le droit à l'alimentation, c'est le droit à la sécurité alimentaire. Alimenter, il y a différentes façons d'alimenter. On peut alimenter avec un système hyper-industriel. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous sommes, il y a 3 milliards d'actifs à peu près sur cette planète. On est 1,4 milliard d'actifs agricoles. On sait fort bien que demain, avec les techniques que l'on maîtrise à l'heure actuelle de mécanisation, de chimiquisation, enfin toutes les techniques dites modernes, on peut demain, avec 2 millions de paysans sur la planète, produire ce qu'on produit avec 1,4 milliard d'habitants. Mais maintenant, si demain on produit avec 2 millions de personnes ce qui est produit avec 1,4 milliard d'habitants, de 1,4 milliard de travailleurs en agriculture, je pense que les conditions, en termes de sécurité alimentaire, autant sanitaire que qualitative, on ne s'y retrouvera pas. Qu'en termes d'environnement, ce système-là aura des conséquences extrêmement catastrophiques. On le voit, un des exemples le plus criant, c'est quand on est dans les négociations internationales à parler avec des pays émergents comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, ou voir la Thaïlande, où leur compétitivité, leur avantage comparatif à eux, c'est leur avantage agroclimatique, entre autres, puisqu'ils sont sous les équateurs, ils ont des conditions climatiques favorables pour produire à pas cher, qui plus est, ils ont des conditions sociales, des conditions de rémunération de leurs travailleurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Donc ça, c'est formule... Le Brésil, par exemple, en agriculture, qui dans les négociations, vous en avez forcément entendu parler, est à la pointe de la bagarre pour la libéralisation, a un système de production qui n'est pas du tout durable. On déforeste la forêt amazonienne pour mettre du soja. Malheureusement, comme on est sous l'équateur qui fait un soleil de plomb et qu'il y a des pluies diluviennes et puis qu'il y a un peu de vent de temps en temps, eh bien, on fait du soja que pendant 3, 4, 5 années suivant les terres, et puis après ces 3, 4, 5 années, eh bien, on fait des pâturages, on ensemence ça pour alimenter du bétail, et comme c'est des très très grandes surfaces, même s'il n'y a pas un gros rendement, ils arrivent à produire du bœuf à pas cher, ce qui fait qu'ils produisent du bœuf à 1 euro du kilo quand nous on le produit à 3 euros du kilo. Mais ce système-là ne dure que très peu de temps, puisque 3-4 ans de ce genre, 7-8 ans de prairie, et après ça redevient de la savane, et après la savane, vous savez comme moi que c'est le désert qui revient. Donc en fait, bien souvent, et ils en parleront sur les conditions sociales, mais au niveau agricole, les avantages comparatifs que des pays ont, c'est bien sûr au détriment des conditions de travail des gens, mais c'est au détriment des conditions environnementales, des systèmes de production. Donc, ce qui est important de dire, c'est que dans les négociations, entre autres internationales, en fait, ce qui s'oppose, c'est plus comme traditionnellement les paysans du Nord contre les paysans du Sud, ou les sociétés riches du Nord contre les sociétés riches du Sud. Dans ce qui se passe dans les négociations internationales, il y a une opposition du Sud contre le Sud, quelque part, qui se fait. S'y ajoute à l'opposition Nord-Sud, s'y ajoute l'opposition Sud-Sud. Le Brésil, enfin les pays que je citais, font autant de dégâts pour les pays pauvres d'Afrique ou des Caraïbes que les pays du Nord, quelque part. Ils se renforcent l'un l'autre, quelque part, parce qu'ils veulent faire jouer leur avantage comparatif qui détruit complètement l'agriculture vivrière au Sud, quoi. Je l'ai dit, 2 millions de paysans peuvent produire pour 1,4 milliard d'habitants. C'est vrai que l'autre donnée, c'est au niveau agricole, c'est bien l'emploi agricole. Si 2 millions de personnes peuvent produire, qu'est-ce qu'on va faire des 1,398 milliard de paysans qui restent à côté? Pour mémoire, en Chine, qui est un pays d'1,2 milliard d'habitants, l'annonce, c'est qu'il y a 400 millions de paysans qui vont être obligés de quitter leur terre pour faire quoi, je ne sais pas trop, mais les projections de la Chine rentrant dans l'OMC, c'est ça, quelque part, quoi. Et donc, quand on veut parler de souveraineté alimentaire, eh bien, quand on veut parler de droit à l'alimentation, forcément, on parle de souveraineté alimentaire pour nous, mais ça, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'un pays riche comme l'Angleterre, par exemple, qui peut s'approvisionner 4 mois sur 12 sur les marchés internationaux, parce qu'il a l'argent pour aller acheter des denrées, eh bien, un pays comme le Niger ne peut pas le produire en achetant, parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Donc, en fait, pour nous, on lie beaucoup l'emploi à la souveraineté alimentaire, c'est lié beaucoup à l'emploi, et donc le droit de l'ensemble des pays à se protéger des importations à trop bas coût. Bon, ça, on en reviendra si vous voulez. Mais c'est vrai que globalement, avec l'OMC, qu'est-ce qui se passe? C'est que on impose des règles, il est imposé des règles à l'ensemble des pays, et quelque part, on prive l'ensemble des pays de leur indépendance, de leur souveraineté. Et c'est en ça qu'on dit, nous, au niveau paysan, eh bien oui, la souveraineté alimentaire, c'est redonner à chaque pays le droit de décider quel type d'agriculture il veut, quel type d'alimentation il veut, et donc lui donner des mécanismes pour arriver à ça. Mais ça, c'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour l'ensemble des gens. Et quand on dit ça, c'est pas pour protéger l'agriculture européenne, puisque nous, fondamentalement, nous sommes contre que l'Europe continue à exporter comme elle le fait, parce que si le Brésil peut exporter et être compétitif sur les marchés mondiaux, c'est parce qu'il a des avantages comparatifs en termes agroclimatiques, comme je parlais, mais au niveau européen, ben c'est parce qu'on aide d'une façon plus ou moins déguisée nos agricultures à exporter. Moi, je suis producteur de lait. Il y a une partie de mon lait qui se retrouve sur le marché mondial. Pourquoi? Parce que je vais toucher demain des aides qui sont complètement découplées de la production. Donc, il faut bien sûr arrêter complètement ça et donc retrouver... on sait comment faire du développement au Sud. Hein, c'est pas très compliqué. En matière agricole, on sait parfaitement faire. On l'a fait en Europe. Tous les pays l'ont fait. Pour se développer, il faut se protéger. Les pays développés le sont parce qu'ils se sont protégés à un moment donné. Quand on a mis la PAC en place en 62, eh bien on a mis la préférence communautaire en place. On a dit en gros aux Allemands, aux Italiens, eh bien vous allez d'abord acheter dans les 6 pays qui font la communauté européenne, et puis comme ça, ça va stimuler votre production locale, mais on va en même temps taxer les produits qui rentrent de l'export d'autres pays du monde, qui rentrent à des prix trop compétitifs, et pour que vous puissiez avoir accès à votre propre marché. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que pour qu'il y ait un réel développement au Sud, puisque majoritairement dans beaucoup de pays, il y a 50, 60, 80% de la population qui est agricole, eh bien il faut Le premier point, c'est redonner l'accès à leur propre marché aux paysans du Sud. Ça, c'est fondamental, donc avec ce mécanisme de protection, entre autres. Et puis le deuxième point, eh bien, il faut tout faire pour que les prix réaugmentent. Et l'OMC, de ce point de vue-là, c'est... bon, on en parlera sur le social, mais l'OMC, c'est quand même tout le contraire. C'est l'alignement sur le moins-disant. Le moins-disant économique, c'est donc faire que les prix payés soient toujours le plus bas. Donc je reviens, bon j'arrête là-dessus parce que je vais les 10 minutes vont être trop, ça va être trop long. Juste, je reviens bien sûr de Caracas, Hong Kong, on pourra en parler un petit peu si mais très rapidement Hong Kong, il s'est pas passé bien grand chose à Hong Kong, si ce n'est quelques broutilles dans les rues, mais Hong Kong, on ne pouvait pas sortir de Hong Kong sans qu'il n'y ait un accord à minima. L'OMC ne se serait pas relevé d'un échec à Hong Kong. Donc, l'ami et le consort ont fort bien travaillé pour qu'il y ait un accord à minima. Et le deal, il a été, entre autres, entre les pays émergents et l'Europe, ça a été en gros, je te donne mes subventions sur l'agriculture, tu me donnes l'annexe 4 sur les services, et puis on fait un accord à minima comme ça, et on permet de relancer la mécanique des négociations, et on est en plein dedans à l'heure actuelle, et entre autres on est agricole, on est en plein dedans, quoi. Donc, très rapidement sur l'OMC, c'est un peu le deal qui s'est... Bon, sur Caracas, bien sûr, c'est notre mouvement, Caracas, c'est la planète Alter. Qu'est-ce qui s'est passé à Bamako et à Caracas? Ben, quelque part, de la vie un petit peu générale, il y a eu une certaine maturité du mouvement altermondialiste, parce qu'un temps, le mouvement altermondialiste a dit, en gros... nous on se réunit, on fait des forums sociaux pour parce que ça regonfle, c'est vrai que ça regonfle d'être dans les forums sociaux, c'est on se retrouve avec l'ensemble des forces sociales du monde, c'est très motivant, on s'aperçoit qu'on représente une force, mais on analyse et on va faire des propositions, mais surtout on se confronte pas au pouvoir politique, on ne définit pas concrètement de stratégie pour porter nos projets. Et là l'évolution quelque part, c'est que en fait on s'aperçoit que le Mali, par exemple, peut intégrer une partie de ce qu'on défend en termes de souveraineté alimentaire dans sa constitution. Le Mali a intégré dans sa constitution une partie de ce qu'on défend en termes de souveraineté alimentaire. Donc il y a des projets que l'on a, que l'on peut faire relayer, soit par des représentants politiques, soit par voire des gouvernements qui peuvent porter une partie de ce que l'on fait. Ça, c'est un des enseignements de Bamako et de Caracas. Le deuxième, c'est que les forums sociaux, c'est bien, mais moi, je suis syndicaliste et on sait tous qu'il n'est pas tout d'avoir des bonnes idées, mais qu'il faut créer des rapports de force pour que ces idées-là s'imposent quelque part et que le mouvement altermondialiste est un mouvement qui représente, qui gagne de jour en jour en puissance, et que si on veut imposer nos idées, eh bien, il va falloir qu'on définisse des stratégies pour s'opposer à ce qui se met en place concrètement à Hong Kong. Et on regrette quelque part qu'à Hong Kong, eh bien, il n'y avait pratiquement que la Via Campesina, c'est-à-dire les paysans qui se sont mobilisés à Hong Kong. Les autres forces sociales, on le regrette quelque part, eh bien, elles étaient, et c'est un problème de calendrier, entre autres de calendrier, mais pas que de calendrier, eh bien, elles étaient à préparer les forums sociaux. Donc, oui, il faut construire l'opposition, je dirais, dans la réflexion, dans nos projets, mais il faut aussi la construire dans les mobilisations, comme on va le faire sur Bolkestein prochainement, mais il faut le faire aussi, parce que les négociations à Genève, ça va continuer jusqu'au mois de mai-juin, donc c'est ça un petit peu le message qui sort de... Il faut être sur les deux terrains, on peut pas... Donc, et j'arrête là.